Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos, d'interactivité pour mieux comprendre le monde avec à mes côtés Antoine Cavaillerou. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et à la une, la douleur qui ressurgit 6 ans après. Ouverture cet après-midi du procès de l'attentat de Nice, l'horreur. Un 14 juillet sur la promenade des Anglais, 86 morts parmi ses victimes. Il y avait Camille, 27 ans seulement. Sa maman, Anne, sera notre invitée de 18h15. Elle a besoin de comprendre, un témoignage très digne, très émouvant. Les autres titres de l'actu, Antoine.
Un Paris-Nantes en jet privé avec un détour à vide de 12 minutes, c'est ce qu'ont fait les joueurs du PSG ce week-end. La SNCF propose un TGV, est-ce possible? On pose la question. L'affaire de Noyelles-sous-Lens, des enfants retrouvés ligotés à leur chaise haute, une enquête administrative est ouverte, RTL est sur place. Rentrée compliquée pour Éric Zemmour, seul et contesté au sein de son parti. Prise de parole imminente de Kylian Mbappé, la première depuis l'affaire Pogba, vous l'entendrez dans RTL Soir.
À suivre aussi, la brigade RTL s'interroge, qui est la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss? Elle est déjà fâchée avec la France, a-t-on vraiment gagné au change? Mais aussi les dessous de l'actu, le Stade de France est-il une passoire? Des spectateurs sans billets ont encore forcé l'entrée, c'était ce week-end lors du concert du rappeur Booba. Il y aura également Laissez-vous tenter dernière avec le roman le plus bouleversant de la rentrée littéraire, et puis à 18h40 on va défaire le monde, l'info autrement avec Cyprien Sini et compagnie. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu.
Ce soir évidemment on reparlera du très cher bilan carbone du Paris Saint-Germain. On vous fera également découvrir la folie du MMA, ces combats dans des cages où presque tous les coups sont permis qui ont enflammé Bercy ce week-end. Enfin, faut-il en rire ou en pleurer? Découverte d'un hôtel spa 5 étoiles pour les chiens et les chats.
À 19h15, on va refaire le monde. On va beaucoup parler de Ségolène Royal autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps deux fois par demi-heure avec vous, Louis Baudin. Bonsoir Louis.
Bonsoir Julien.
Tendance pour demain?
Eh bien, du soleil, de la chaleur et un peu d'orage comme aujourd'hui.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier,
Antoine Cavaillé.
6 ans après cette soirée tragique sur la promenade des Anglais, le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert cet après-midi. 8 accusés jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris, mais un grand absent, Mohamed Laouesh Boulel, le conducteur du camion abattu après son terrible attentat. Le 14 juillet 2016, ce sont 80 civils qui ont été fauchés, plus de 450 blessés. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette première audience pour RTL et peu de parties civiles présentent aujourd'hui les bancs clairsemés.
Oui, ils sont seulement une cinquantaine à avoir fait le déplacement, des rescapés, des familles endeuillées qui s'enlacent pour se donner des forces dans cette épreuve à venir. Alors comment interpréter cette salle à moitié vide? Certains ne cachent pas qu'ils n'attendent pas grand-chose de ce procès sans auteur ni complice. Les accusés qui ont pris place devant nous dans le box ou sur des chaises à côté sont juste des troisièmes ou des quatrièmes couteaux. Ils n'ont rien à voir avec ces attentats, dénoncent leurs avocats. Certains étaient des amis, étaient amis avec le tueur, d'autres ne le connaissaient même pas. Ils sont soupçonné d'avoir joué les intermédiaires pour lui fournir des armes. Célia, qui a perdu sa mère sur la promenade des Anglais, les a à peine regardés. Elle est là pour autre chose.
Je vais témoigner, c'est important pour moi pour parler pour ma mère, pour faire entendre sa voix quelque part. Et puis aussi pour expliquer que voilà, même si j'étais pas sur place, j'ai un deuil traumatique à surmonter. La reconstruction, c'est difficile. C'est une façon de m'approprier aussi cet événement-là et on verra bien.
Aujourd'hui, la journée aura été très technique. Les magistrats s'en sont d'ailleurs excusés avec notamment cette question. Fallait-il être sur la trajectoire du camion pour être reconnu comme partie civile? Un débat aride mais essentiel dans cette scène de crime immense sur près de 2 km avant de plonger dès demain dans l'horreur avec l'exposé des faits.
Merci Cindy Hubert en direct de la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL.
Et ce procès hors norme, il est retransmis à Nice dans une salle spécialement aménagée pour l'occasion. Nous serons sur place dans le journal de 19h.
RTL Soir.
Le débat autour des jets privés relancé. Ce week-end, le patron de la branche TGV de la SNCF a interpellé le PSG.
Et oui, pourquoi prendre un avion pour faire Paris-Nantes quand un train met moins de 2 heures pour relier les deux villes ? D'autant que, bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
D'autant que RTL vous l'apprend, le jet des Parisiens a également fait un vol à vide de 12 minutes.
Oui, car les joueurs se sont posés sur l'aéroport de Nantes à 12h06 samedi après 42 minutes de vol. Problème, le match et les conférences de presse se terminent peu avant minuit et l'aéroport de Nantes interdit tout décollage et atterrissage de minuit à 6h en raison d'un couvre-feu. Mais le Paris Saint-Germain, effectivement, avait prévu le coup. Le Boeing 737-500, loué par le club parisien, a donc fait un mini-vol de 12 minutes entre Nantes et Saint-Nazaire. Car là-bas, bah, tout simplement, il n'y a pas de couvre-feu. Juste après le match, les joueurs ont donc pris le bus pour Saint-Nazaire et ont pu décoller vers 1h du matin, destination Roissy-Charles-de-Gaulle. Le club s'est justifié, expliquant qu'il n'avait pas d'alternative à 7h-ci pour pouvoir rentrer à Paris. Alors Alain Krakowicz, le patron de TGV Intercité, en a profité pour leur rappeler qu'il était tout à fait possible de privatiser un TGV, et ce, peu importe l'heure. Le club explique ne pas être opposé à ça, mais a notamment besoin de garanties en termes de sécurité et des ajustements sur les horaires.
Merci Arnaud Touche, spécialiste transport ici à RTL.
Donc voici de nouveau la question des jets privés sur la table de ce studio au moment où Emmanuel Macron appelle les Français à être au rendez-vous de la sobriété.
C'était cet après-midi à l'Elysée, après un entretien par visioconférence avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président de la République se dit favorable à des achats européens de gaz commandés ensemble pour faire baisser les prix. Les prix de l'énergie qui ne cessent d'augmenter, conséquences très concrètes. Ce lundi, une trentaine de piscines publiques ferment leurs portes pour une durée indéterminée. Ça concerne Limoges, Granville ou encore Versailles. L'exploitant n'arrive plus à payer les factures. Elle est passée de 15 à 100 millions d'euros.
Emmanuel Macron qui a également eu un mot pour Liz Truss, la nouvelle première ministre britannique. Il se dit prêt à travailler, je le cite, hein, entre alliés et amis.
Et oui, comme attendu, élu par les membres du conservateur Liz Truss, les résultats ont été annoncés en début d'après-midi. Elle succède ainsi à Boris Johnson. Elle prend la tête d'un pays frappé par la crise, 10% d'inflation, des factures d'énergie qui explosent. Elle annonce d'ores et déjà la couleur, elle prône l'ultralibéralisme.
J'ai fait campagne au nom des valeurs conservatrices et je vais gouverner au nom des valeurs conservatrices. Je vais proposer un plan ambitieux pour réduire les impôts et faire grandir notre économie. Je ferai ce qu'il faut concernant la crise de l'énergie à travers les factures des ménages, mais aussi en m'attaquant à nos problèmes d'approvisionnement dans le long terme. Je suis certaine que nos convictions sont partagées par les Britanniques. La liberté, la capacité à choisir sa propre vie, de payer peu d'impôts et la responsabilité personnelle.
Un propos recueilli par Marie Billon à Londres pour RTL. À l'étranger, toujours, on l'apprend là à l'instant, ce terrible séisme en Chine, le bilan qui s'alourdit à 46 morts.
Des enfants sales, ligotés à leur douche juste après la pause. On va se demander comment, après cette sinistre découverte dans le Pas-de-Calais, une famille a pu passer à travers les filets des autorités. A tout de suite sur RTL.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
18h, 19h15,
RTL Soir.
Julien Cellier.
Et la suite du journal, 18h09 sur RTL. Après cette découverte sinistre la semaine passée, des enfants retrouvés attachés à leur chaise dans une hygiène déplorable. Enquête administrative ouverte à Noyelles-sous-Lens.
Annonce du gouvernement, la secrétaire d'État chargée de l'enfance était dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. Comprendre comment les 10 enfants de cette famille ont pu subir ces maltraitances. Les parents placés sous contrôle judiciaire. Ils vont être jugés en janvier prochain pour carence éducative grave. Franck Hanson, vous êtes à Noyelles-sous-Lens pour RTL, bonsoir.
Bonsoir.
Ce qu'on apprend, Franck, aujourd'hui, c'est qu'il y a eu plusieurs signalements depuis 2013. Comment cette famille a pu passer entre les mailles du filet ?
Bien, c'est ce que devra déterminer l'enquête, mais en tout cas, la secrétaire d'État reconnaît qu'il y a eu un problème de coordination entre les différents services, l'école, l'aide sociale à l'enfance, le département, tel enfant signalé, mais pas de rapprochement fait avec les autres. Ses parents ont aussi reçu la visite des services sociaux, mais rien de flagrant n'aurait été relevé. Ils ont aussi pu cacher certaines choses ou mettre en ordre, confirment les autorités. La famille n'était en tout cas pas connue de la justice, selon le procureur, qui dénonce des manquements, des carences éducatives. Une affaire qui intervient dans un milieu très défavorisé, dans un département du Pas-de-Calais où l'on recense plus de 20% d'enfants placés ces 3 dernières années et pas toujours suffisamment de moyens pour les acteurs concernés.
Franck, vous vous êtes rendu devant l'école des enfants. Qu'est-ce qui se dit ? Comment réagissent les autres parents ?
Beaucoup de consternation, de honte. J'ai croisé des mamans choquées devant l'école primaire, tout près de la mairie et de la maison de ses parents, pointées du doigt. Il aurait fallu agir plus tôt, selon certains.
Oui, dans le voyage, on les voit souvent, oui, avec leurs bouteilles. Voilà, désolé, c'est méchant à dire, mais c'est vrai. Problème d'hygiène, il y avait plein de problèmes avec les petits. C'est malheureux, quoi. À un moment donné, elle avait la petite fille, elle me disait, maman, elle sent le pipi, maman, elle est toujours habillée pareil. C'est pas à nous de bouger, c'est aux profs de bouger, quoi. Ils sont là pour ça, quoi. Moi, je suis bouleversée. C'est des enfants, on touche pas aux enfants.
Pour autant, Sylvie est une amie de la famille et elle assure qu'il n'y a pas eu de mauvais traitement.
Les enfants, ils manquaient de rien. On les attache, point barre, pour pas qu'ils tombent. Mais attacher, ligoter, il y a deux choses différentes, quoi. 10, c'est quand même du boulot, quand même. C'est pas évident pour les parents. Mais maltraitant, c'est impossible. C'est exagéré, oui.
Ce soir, les 6 enfants mineurs, dont un bébé de 4 mois, ont tous été placés dans des foyers ou des familles d'accueil. Les parents restent cloîtrés chez eux en attendant leur procès.
Franck Hanson, correspondant RTL dans les Hauts-de-France.
RTL Soir. La rentrée politique compliquée pour Éric Zemmour, comme si l'ex-candidat à la présidentielle s'était levé du mauvais pied.
Invité chez nos confrères de BFM TV ce matin, le polémiste d'extrême droite a reconnu avoir eu des doutes après les échecs du printemps. L'automne s'annonce guère plus joyeux. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Éric Zemmour va tenter de se relever sur fond de critiques internes.
Oui, officiellement à reconquête. Tout va bien, Éric Zemmour est rentré reposé après sa cure de silence. Il a fêté son anniversaire au QG avec ses cadres et il s'apprête à lancer un cycle de conférences pour, je cite, « prendre de la hauteur sans punchline et politique aérie pour camper l'intellectuel plutôt que le commentateur ». Et le parti va tenter de se structurer, fédération, idée, maillage. Bref, le plan de bataille est, paraît-il, ficelé. Mais loin des micros, certains soutiens sont encore en gueule de bois et s'interrogent sur la capacité de leur chef à se relever vite de la défaite. Éric Zemmour a l'air dans le gaz, souffle l'un d'entre eux qu'il a écouté ce matin à la radio. Tout était fastidieux, d'autant que cette rentrée est parasitée par des critiques ouvertes d'anciennes personnalités de reconquête, comme Jacqueline Moureau qui acte sa rupture avec le parti, incapable, dit-elle, de regarder ses erreurs en face. Alors à reconquête, on préfère parier sur le long terme. Après tout, le parti a de l'argent, des adhérents et surtout une équipe qui a la dalle, assure un soutien. Marion Maréchal ou Nicolas Bay, Zemmour a semé, mais ce sera peut-être à d'autres de récolter.
Marie Mollet du service politique de RTL.
18h13, plus d'une semaine après le déclenchement de l'affaire Pogba, première réaction de la victime collatérale, Kylian Mbappé.
D'après Mathias Pogba, frère d'eux, le joueur de la Juve aurait demandé à un marabout de jeter un sort à l'attaquant vedette du PSG. Le milieu de terrain des Bleus dément catégoriquement. Il dénonce une tentative d'extorsion à plusieurs millions d'euros menée par des proches. Kylian Mbappé a donc pris la parole là il y a quelques minutes et il tient à apaiser les choses.
Aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça.
Les mots très attendus de Kylian Mbappé avec Nicolas Georgereau du service des sports de RTL. Avant donc PSG-Juve demain, la Juve, le club de Pogba, il y a quelques semaines du Mondial, avec on l'espère les deux joueurs en équipe de France. Merci Antoine, à tout à l'heure. Le
à
temps, Louis, ça gronde ce soir, ça grondera demain aussi.
Exactement, hein, ça gronde ce soir, là ça va arriver sur l'île de France dans l'heure à peu près. Hein, attention, des orages parfois assez violents. Même chose dans le Massif central, il y en a autour de la vallée du Rhône, dans les Alpes. Ça commence également sur les Pyrénées, donc attention à ces orages soir, des orages que l'on trouvera demain avec la même fréquence, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de soleil puis à un moment on a un passage nuageux et orageux accompagné de fortes rafales, le tout avec des températures encore estivales. Ça baissera un petit peu l'après-midi, 20 à 25 degrés près de la Manche, mais encore 25 à 30 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 30 à 33 degrés dans la moitié sud.
Merci Louis.
La brigade RTL Soir.
The Brigade, même RTL ce soir, parce qu'elle traverse la Manche et elle s'interroge, finira-t-on par regretter Boris Johnson. Le Royaume-Uni a une nouvelle première ministre et elle défie déjà la France. On va poser 3 questions à notre correspondante à Londres. Bonsoir, good evening Marie Billon.
Good evening, bonsoir.
Liz Truss a été élue aujourd'hui à la tête du Parti conservateur. Donc demain, dès demain, elle va prendre la tête du gouvernement. Qui est-elle exactement ?
Alors Liz Truss est une proche de Boris Johnson. Elle est toujours d'ailleurs sa ministre des Affaires étrangères jusqu'à ce qu'elle ne le remplace à Downing Street. Demain, vous l'avez dit, elle a un parcours atypique. Elle a d'abord été centriste et anti-Brexit. Elle est maintenant à la droite du parti de droite et elle est très pro-Brexit. Elle veut stimuler l'économie avec des baisses d'impôts et n'est pas pour des aides directes aux ménages qui souffrent du coût de la vie, même si elle réfléchirait finalement à geler les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité.
Et donc elle a déjà des positions anti-françaises, c'est ça ?
Alors, c'est vrai que lors d'un des nombreux meetings de campagne, une modératrice lui a demandé si elle estimait qu'Emmanuel Macron était ami ou ennemi. Elle a répondu que le jury était encore en train de délibérer. Alors le Brexit, mais aussi les traversées clandestines de la Manche, tendent les relations entre Londres et Paris. Et Liz Truss a voulu faire plaisir à la base du Parti conservateur avec cette saillie contre le président français. Sauf que ça a inquiété la majorité des députés de son propre parti, qui espéraient se retrouver avec quelqu'un d'un peu plus sérieux et policé que Boris Johnson à Downing Street.
Donc il ne faut pas s'attendre à un changement de cap radical avec Liz Truss, du moins envers la France ou l'Europe.
Alors elle pourrait même être un petit peu plus ferme, voire plus radicale, notamment sur les questions liées au Brexit qui ne sont pas encore réglées, notamment le statut de l'Irlande du Nord. Elle s'est dit prête à ne pas respecter un accord signé entre Londres et Bruxelles, quitte à enfreindre les lois internationales, ce qui inquiète déjà Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a salué l'élection de Liz Truss, en lui rappelant quand même que le Royaume-Uni et l'Union européenne sont des partenaires.
La brigade British RTL ce soir avec Marie Billon depuis Londres. Merci beaucoup pour vos explications, Marie. RTL soir la suite, c'est dans quelques secondes, avec une parole digne, forte, émouvante. Anne Meurice sera notre invitée. Il y a 6 ans, elle perdait sa fille dans l'attentat de Nice. Le procès vient de s'ouvrir. Anne Meurice a besoin de comprendre. Elle sera avec nous juste après ça. Vous restez avec nous, à tout de suite.
Jusqu'à 19h15,
RTL soir avec Julien Cellier.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL soir.
RTL soir de retour à vos côtés, comme toujours, bonne fin de journée. Et ce soir, nous voulions donner la parole à ceux dont la vie a été bouleversée le 14 juillet 2016. L'attentat de Nice, ce camion qui renverse la foule, l'horreur. 86 morts, 450 blessés après des années d'attente. Le procès s'est ouvert cet après-midi à Paris. Et notre invité maintenant, depuis cette cour d'assises spéciale, est Anne Meurice. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez perdu votre fille, Camille, sur cette promenade des Anglais. Elle avait 27 ans. Vous présidez l'association de victimes Mémorial des Anges. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir, Anne Meurice, après ces toutes premières heures, ces premières minutes d'audience? Est-ce que c'est une étape sur le chemin pour la vérité?
C'est une étape nécessaire pour la vérité et c'est une journée assez éprouvante, même s'il n'y a pas eu de grande annonce aujourd'hui, mais c'était la première fois que je venais dans ce lieu et c'est éprouvant. Au-delà du stress, il y avait une grande souffrance, une grande reviviscence. J'avais vraiment l'impression de me retrouver 6 ans en arrière lorsque j'étais à la recherche de mon enfant. Et il y avait de la souffrance, du désarroi, une certaine forme de peur, un très grand mal-être.
C'est une journée qui fait ressurgir ces terribles souvenirs du 14 juillet. J'imagine qu'il y a des images qui reviennent fatalement.
Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'émotions et puis beaucoup de peine parce que là, de façon violente, il y a l'absence qui revient. Et aujourd'hui, mon cœur et mes pensées sont entièrement tournées vers mon enfant. Elles le sont en permanence, mais le contexte est très différent aujourd'hui. Et pour pouvoir survivre et aller de l'avant... Il y a des parades que l'on met en place pour continuer à vivre. Et une de mes parades, c'est de penser qu'elle est ailleurs, qu'elle est soit à Paris, parce qu'elle habitait à Paris, soit en Argentine, où elle faisait des missions humanitaires sur la dernière année. Mais là, malheureusement, c'est la vraie réalité qui vous saute aux yeux, ce moment où vous tombez vraiment dans le réel de votre souffrance. Et vous êtes confronté à cette dernière. Donc c'est une étape qui est nécessaire. Mais ce sont des journées très douloureuses.
Votre combat depuis 6 ans, vous dites que vous le menez avec les valeurs justement de votre fille Camille en tête, parce qu'elle était humaine, elle était altruiste, elle vous guide quelque part dans des étapes comme aujourd'hui.
En tout cas, elle est présente dans mon esprit et je suis la continuité, je veux être sa continuité, je suis la dépositaire de sa mémoire, je suis la dépositaire de sa volonté. Je suis la dépositaire de tout ce qu'elle voulait porter dans ce monde et dans cette société. Et dans mes combats, C'est son image, c'est ses actions qui me portent. Et par moments, je me dis, je ne sais pas s'il y a un autre au-delà, je ne sais pas si elle me voit, mais en tout cas, si elle me voit, il faut qu'elle soit toujours fière de sa maman.
Qu'est-ce que vous attendez de ce procès, Anne-Maurice, qui va durer 4 mois? Vous avez besoin de comprendre la trajectoire des accusés, la radicalisation aussi peut-être express de ce terroriste qui est maintenant décédé. Comment la société a failli, c'est ça la question?
J'ai besoin de comprendre beaucoup de choses et ma première interrogation, c'est de savoir comment on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait qui permette à nos pays occidentaux, à nos démocraties de vivre de telles tragédies. Ça, c'est une interrogation que je porte bien avant l'attentat du 14 juillet, dès qu'on a eu ces attentats, notamment le V13, où là on a vu quels étaient les ravages au niveau de la société civile du terrorisme. Donc moi j'ai besoin de comprendre, mais en ce qui concerne aussi spécifiquement ce procès, j'ai besoin qu'il y ait des sanctions, des jugements sévères à l'égard des accusés qui sont dans le box. Je crois vraiment en la valeur dissuasive de la sanction et je pense qu'il est important que notre droit soit sévère à l'égard de ces terroristes.
Est-ce que vous comptez vous adresser justement aux accusés? Je ne sais pas si vous avez croisé leur regard aujourd'hui.
Écoutez, ils étaient dans la salle, hein. Certains étaient derrière les box vitrées. J'étais assez loin, donc je ne les voyais pas. Et très honnêtement, c'est des individus qui n'existent pas. Pour moi, je suis incapable de leur attribuer des sentiments. Et moi, j'en ai aucun à leur égard. Je n'ai pas de sentiment de haine, mais je n'ai pas non plus de sentiment d'empathie. Je n'ai pas envie d'avoir de compréhension et de leur accorder des circonstances atténuantes. Je pense que tout individu, quel que soit le parcours de vie qu'il ait eu, et je peux en parler en connaissance de cause, puisque nous sommes des personnes qui vivons la souffrance au quotidien, est-ce pour autant qu'on a la légitimité d'aller tuer d'autres individus sous prétexte qu'on a eu des malheurs dans notre vie? C'est quelque chose que je ne cautionne pas.
Alors, avant de vous laisser, Anne-Maurice, on l'a entendu, vous êtes une présidente d'association, vous êtes aussi et surtout une maman, mais Camille avait aussi un papa, un frère. Comment le reste de votre famille vit cette journée si difficile, si douloureuse aujourd'hui?
C'est une situation qui est douloureuse pour tout le monde. C'est ce qui fracasse nos familles, c'est que nous portons le deuil de notre enfant, mais nous portons également la souffrance des autres membres de la famille. Je porte la souffrance de son papa, je porte la souffrance de son frère et inversement, porte le deuil d'une fille, d'une sœur, mais la souffrance et la douleur d'une maman. Donc ça nous fait une famille qui est détruite, une famille qui est anéantie, une famille qui doit se reconstruire, qui doit essayer de repartir sur des nouvelles bases. On se porte dans la vie et par moments, j'ai envie de vous dire qu'on fait de la méthode Coué, c'est-à-dire on s'accroche à des moments de bonheur que l'on a et on les vit intensément en se disant voilà, c'est ça le bonheur. En tout cas, aujourd'hui, on a eu ça. Ne pensons pas à hier, c'est trop douloureux de savoir qu'on n'a plus Camille. Ne pensons pas à demain, c'est trop angoissant de savoir qu'on vieillira et qu'on ne l'a plus dans notre entourage. Donc profitons le mieux que nous pouvons de ce présent et essayons de le rendre le plus beau possible. Mais c'est un coaching qu'on doit faire au quotidien, c'est des forces qu'on doit avoir, qu'on n'a pas toujours, mais c'est ce qu'est devenu nos vies.
Merci beaucoup à Anne-Maurice d'avoir été ce soir notre invitée, d'avoir pris un petit peu de temps pour nous raconter cette journée si particulière pour vous. Vous, la maman de Camille, disparue sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016, et vous, la présidente de l'association de victimes de cet attentat, Mémorial des Anges. Merci d'avoir été avec nous sur RTL en cette première journée du procès. On vous envoie beaucoup de force et beaucoup de courage.
Merci à vous. Merci, au revoir.
Ce témoignage est à retrouver sur RTL.fr.
RTL Soir, la suite, c'est dans quelques secondes. Info, décryptage, découverte, c'est la promesse. Il y aura vos dessous de l'actu, mais quel est le problème au Stade de France? Sécurité encore forcée, cette fois-ci lors du concert du rappeur Booba. Et puis, laissez-vous tenter dernière avec le roman le plus émouvant de la rentrée littéraire. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir,
Julien Cellier.
RTL.
18h30, passé de 1 minute.
RTL Soir avec Julien Cellier.
RTL Soir, toujours là pour vous servir, notamment Antoine Cavallero qui vous rappelle maintenant les trois grands titres à retenir dans l'actu ce soir.
Je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Kylian Mbappé joue l'apaisement, Paul Pogba l'a appelé, il lui a donné sa version des faits. La star du PSG, victime collatérale des déchirements familiaux chez les Pogba, l'aîné Mathias assure que Paul a voulu faire marabouter Mbappé, ce que dément fermement le milieu de terrain des Bleus. Kylian Mbappé qui s'exprimait en conférence de presse du Paris Saint-Germain, conférence décidément animée. Sur la polémique autour des jets privés, Christophe Galtier, l'entraîneur, répond par le second degré. On va voir si on peut faire nos déplacements en char à voile, fermez les guillemets. Et puis on l'apprend ce soir, le gouvernement saisit la justice après un rapport sur l'IHU lorsqu'il était dirigé par Didier Raoult. Un document publié aujourd'hui qui confirme des dysfonctionnements graves au sein de l'Institut marseillais.
Merci Antoine. Le temps pour demain, Louis. Ça donne quoi? Toujours des départements en vigilance hein, d'ailleurs. Hein.
Alors ça c'est pour ce soir, hein, effectivement, sur l'Île-de-France notamment, encore du côté de la Provence. Alors demain il y en aura peut-être d'autres parce qu'effectivement nous retrouvons ce risque d'orage dans la plupart des régions, toujours très compliqué à localiser hein, du jour au lendemain. Ça existera dans toutes les régions. Ça n'empêchera pas le soleil de dominer. Il y aura plus de moments sans pluie qu'avec, évidemment. Et les températures, alors ça baissera à peine, ça restera encore estival. 20 à 25 degrés près de la Manche demain après-midi, 25 à 30 degrés encore dans la plupart des autres régions et parfois jusqu'à 33 degrés dans les régions du sud.
Merci Louis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous de ce nouveau raté au Stade de France. Encore une fois, des spectateurs sans billets ont forcé ce week-end l'entrée pour accéder au concert du rappeur Booba. Des scènes qui rappellent évidemment le fiasco de la finale de la Ligue des Champions. Alors cette fois, on ne peut pas pointer du doigt les supporters anglais. Mais on a le droit de s'interroger sur le dispositif. Bonsoir Arthur Pereira.
Bonsoir.
Vous étiez à Saint-Denis samedi soir. Que s'est-il passé exactement?
Eh bien, sur une vidéo amateur qui tourne depuis 24 heures sur les réseaux sociaux, on voit une quarantaine de jeunes qui tente d'entrer dans le Stade de France. La scène se passe à la porte U. Il est 19h45, moins d'une heure avant le début du concert, et après avoir foncé, puis sauté au-dessus des tourniquets et bousculé des agents de sécurité, seule une vingtaine de personnes s'introduisent dans l'enceinte, mais l'immense majorité, 18 d'entre elles, sont très vite rattrapées grâce à la vidéosurveillance du stade, confirme la préfecture de police. Deux autres tentatives d'intrusion ont été empêchées samedi soir par les forces de l'ordre. L'une d'elles a été filmée, cette fois 15 minutes avant le début du concert. 20 personnes qui tentaient d'entrer de force dans l'enceinte, mais finalement neutralisées par les agents de police.
Cet événement, il questionne une nouvelle fois la sécurité. Est-ce que le dispositif a été adapté depuis la finale de la Ligue des Champions?
Si, en tout cas, c'est ce qu'assure la préfecture de police qui dit avoir mis en place un dispositif massif de sécurisation. À l'heure où je vous parle, la préfecture n'est pas en mesure de me communiquer des chiffres précis et insiste sur le fait que la police n'est pas responsable de la sécurité aux portes du stade, là où la scène s'est déroulée. De son côté, la direction du Stade de France explique avoir laissé entrer cette vingtaine d'individus. Le but était d'éviter l'utilisation du gaz et de la force au milieu des familles présentes samedi soir. On se souvient hein, des scènes au Stade de France d'enfants en larmes, scènes de panique lors de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. Donc, stratégie affichée du stade, laisser entrer pour mieux interpeller ensuite, sans provoquer de débordement.
Les dessous de ces nouvelles tentatives d'entrée sans billet au Stade de France lors du concert de Booba samedi soir avec Arthur Pereira. Merci Arthur.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h35.
Laissez-vous tenter dernière.
Et la jolie parenthèse du soir, laissez-vous tenter dernière. Et on va continuer de se plonger dans l'abondante rentrée littéraire. Notre guide depuis maintenant une dizaine de jours, c'est évidemment Bernard Lehu. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors ce soir, place au livre le plus bouleversant du moment, Vivre vite de Brigitte Giraud.
Le 22 juin 1999, le mari de la romancière se tue à moto. 20 ans plus tard, Brigitte Giraud cherche à donner enfin des réponses à toutes les questions sur les circonstances du drame qui la hante depuis deux décennies.
J'ai eu besoin d'écrire Vivre vite parce que dans cet accident de moto qui demeure inexpliqué, il y a tout un tas de zones d'ombre. J'avais besoin de mener une enquête pour comprendre comment, dans nos vies, à un moment de notre existence, on a 35 ans, tout va bien, tout à coup, il y a un grain de sable et j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui conduit à ce grain de sable, comment tous ces hasards, toutes ces coïncidences forment un destin. C'est un livre qui pose la question de savoir est-ce que le destin existe et est-ce qu'on peut quelque chose face à ce destin.
Contrarier le destin, la démarche semble illusoire, Bernard.
Bien sûr, le passé est irréversible, même quand il est scandaleux. La moto, par exemple, qui n'était pas la sienne et qu'avait emprunté Claude ce jour-là, était une Honda Fireblade, lame de feu, un modèle trop puissant, interdit à la vente au Japon et pourtant autorisé en France. Mais miraculeusement, le livre de Brigitte Giraud n'a absolument rien de morbide.
Le fait de mener l'enquête pour comprendre comment tout cela a pu arriver est quelque chose qui, au contraire, moi, m'apaise et me libère parce que je me rends compte d'une part qu'il n'y a pas de culpabilité trop lourde qui empêcherait de vivre, et ça me permet de faire vivre Claude, tout simplement. Et ça, je ne l'avais pas prévu, je crois, en démarrant l'écriture du livre. Et je me suis rendu compte que finalement, j'ai écrit un livre d'amour, que je fais apparaître cet homme, qu'il est très présent d'un bout à l'autre, qu'il est vivant, et pendant ce temps d'écriture du livre, j'ai été avec Claude tout le temps et ça a été des moments très forts et très amoureux, on va dire.
À la fois déchirant et apaisant, Vivre vite, le livre de Brigitte Giraud, a aussi l'immense mérite de rappeler à chacun d'entre nous la fragilité de la vie.
Oui, et c'est parce que la mort est là et parce qu'elle rôde en permanence, déjà qu'on l'oublie, et ça heureusement qu'on ne pense pas à chaque seconde qu'on est mortel, mais ça veut dire que ça donne du prix, un prix incroyable à l'existence. Je crois qu'on mesure trop peu notre privilège d'être en vie. Et c'est bien par moment de se souvenir que c'est tellement précieux d'être vivant et qu'il faut faire quelque chose de cette vie qui est un privilège.
Eh bien, ce qu'elle fait, elle, de sa vie, Brigitte Giraud, c'est écrire, et très bien, et elle rend surtout la vie à l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Il faut lire vite, vivre vite. C'est publié aux éditions Flammarion.
Un roman bouleversant, le plus bouleversant de la rentrée littéraire, c'est ce que vous m'avez dit hors antenne, cher
celui
Bernard.
Celui qui m'a bouleversé cet été.
Entretien complet avec Brigitte Giraud à découvrir, bien entendu, sur notre appli RTL.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et dans quelques secondes, RTL Soir revient. On va défaire le monde, les 20 minutes d'infos autrement, avec les souriants. Cyprien Sini, oui. Isabelle Choquet, Laurent oui. Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Le MMA, on ne parle pas d'assurance, a rempli Bercy ce week-end. Deux combattants dans une cage, tous les coups presque permis. Pourquoi ce sport fascine autant? Réponse dans un instant.
Et on parlera du PSG aussi.
Ah bah oui, bien entendu.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.